Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bienvenue dans ce troisième chapitre de notre épisode consacré à l'aventure Bao Family. Alors Céline, dans le chapitre précédent, on a évoqué l'ouverture et le succès fulgurant de Petit Bao et la genèse du projet Gros Bao. Et comme on le disait précédemment, l'ouverture de Gros Bao a été perturbée par la pandémie de Covid début 2020. Alors raconte-nous comment ça se passe à ce moment-là.
Alors en fait, pendant la pandémie, on était en train de faire les travaux, le curage, mais en fait, ils se sont arrêtés de travailler. Enfin, le premier mois, on n'a pas du tout travaillé, c'était impossible pour tout le monde.
Ouais.
Au bout du deuxième mois, on a réussi à faire travailler les gens. Ce qui nous, en fait, ça nous a permis d'ouvrir, mais juste après la fin du premier confinement,
d'accord,
en juillet 2020.
D'accord.
Et en fait, je pense que là aussi, les étoiles étaient alignées parce qu'en fait, on ouvrait un espèce de paquebot tout rouge sur le canal à Saint-Martin à la sortie du Covid où les gens avaient...
Il y avait une euphorie.
Il y avait une euphorie.
Une frustration, plus de restaurants pendant des semaines.
En fait, vous avez fait les travaux pendant le Covid, donc ça tombait pas si mal.
Non, en fait, ça tombait plutôt...
Il y a de la chance hein, parfois dans les, ouais, dans les parcours entrepreneuriaux à succès, hein, mais il faut savoir les saisir.
Bien sûr. Voilà.
Complètement.
Et vu qu'on parle du Covid, avant de reprendre le fil du Gros Bao, du restaurant qui va devenir Gros Bao, Petit Bao, quel est l'impact sur l'activité pour Petit Bao? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fermé, vous n'avez pas le choix, mais est-ce que vous avez maintenu une activité de la livraison?
Ouais, on a maintenu une activité. Forcément, au début, enfin, le premier mois, on a fermé complètement. Le deuxième mois, on s'est dit qu'on voulait quand même remaintenir le lien avec la communauté. Mmh. Pour moi, ce qui était important, c'est comme on avait créé une émulation et un lien fort avec la communauté, pour moi, c'était horrible de casser ça. Qu'il y a un espèce de vide où il ne se passe rien. J'avais trop peur que les gens ils nous oublient. Ma hantise,
c'est,
en fait...
C'est récent, hein, quand le Covid arrive, Petit Bao, à un an, même pas.
Un an, exactement, ouais, voilà. Oui, un an.
Donc c'est fragile encore, la marque, elle est fragile, même la structure est fragile financièrement aussi.
C'est exactement ça. Et pour moi, c'était hyper important qu'on reste top of mind des gens, malgré le Covid.
Et comment tu fais alors pour te rappeler à eux?
Alors, et du coup, j'avais envie en fait, de ramener l'expérience Bao chez les gens. Mais du coup, pas à travers la livraison au début. Je voulais quelque chose d'un peu plus créatif, justement. Ouais. Et du coup, on a fait nos trois recettes phares, les wontons, les aubergines et les nouilles sautées, en kit recette.
Ah, c'est ça, la cup noodle?
Il y avait la cup noodle après, ouais. Exactement. Mais là, pour Petit Bao, c'était vraiment un kit recette où on fournissait la recette plus tous les ingrédients nécessaires.
Les sauces soja. C'est au client de cuisiner chez lui. D'accord.
Exactement.
Pourquoi ça? Juste pour être créatif et faire différemment, ou il y a un intérêt à faire des choses, enfin, avoir un produit plus frais ou plus...
Alors, il n'y avait pas d'intérêt business parce que clairement, on n'a pas gagné d'argent sur cette opération.
Ça doit pas être méga rentable.
Exactement. Non, par contre, c'était vraiment de maintenir le lien, que les gens, en fait, ils puissent faire les recettes chez eux, qu'ils le partagent aussi, tu vois, sur leur compte Instagram, ouais, chez eux, et que, en fait, on ait toujours un lien avec eux pour que ils continuent à penser à nous à la réouverture.
Ouais. Mais du coup, pas rentable. Et ça permet d'occuper les équipes.
Ça
donne du boulot aux équipes. Ça marche. Ouais. Est-ce que ça marche?
Ouais, en fait, ça marche parce qu'on vendait nos kits tous les jours.
Ouais.
Et en fait, ce qu'on disait, en fait, ça nous. Et à ce moment-là, en fait, on avait vraiment envie d'avoir un impact sur. Encore sur les gens. Moi, je me sentais assez démunie à être à la maison, à rien faire.
Mmh.
Et en fait, les bénéfices de ces kits recettes, en fait, nous permettaient de faire des repas pour Protège ton soignant.
Ouais.
Donc, en fait, en plus de nos kits recettes, on livrait des repas dans les hôpitaux.
D'accord.
Pour nous, en fait, c'était juste... Je pense qu'on avait besoin de rapporter du sens, en fait, à ce moment-là. Mais derrière, on l'a fait, mais comme c'était pas rentable, on a switché à la livraison.
Mmh. Ah, donc vous êtes allé à la livraison, finalement,
oui,
quand même.
Finalement,
donc, plus classique, des plats, de la carte.
Exactement.
Recevoir dans un périmètre à Paris.
Exactement.
Et ça a marché, la livraison?
Oui, ça a énormément marché. Ça a vraiment très bien fonctionné.
Et c'est à ce moment-là que vous avez ouvert une dark kitchen, il me semble?
Oui, c'était pendant le deuxième confinement, il me semble. Donc, on a créé la marque Bao Delivery. En fait, qui pouvait partir de nos restaurants, Petit Bao, Gros Bao, quand ils étaient fermés. Mais aussi, du coup, de kitchen dans les cuisines de Deliveroo.
Pourquoi une dark kitchen? Parce qu'il y a une demande qui est supérieure à ce que vous pouvez produire dans les restaurants.
Alors, en fait, nous, c'était... en fait, une fois que les restaurants sont réouverts, Petit Bao, Gros Bao, on n'a jamais voulu faire de la livraison dans nos restaurants. Donc, ça permettait de délocaliser, en fait, des cuisines ailleurs que nos restos pour pouvoir livrer les personnes à la maison.
Et c'était vos équipes ou c'était des recettes que vous leur donniez à eux?
C'était nos équipes avec nos recettes.
D'accord.
On avait quand même... fait des recettes adaptées en fait à la livraison, mais c'était, on pouvait quand même on retrouvait nos bao, nos aubergines, notre poulet. Donc il y avait quand même nos classiques plus des plats qui étaient adaptés à la livraison.
Ouais. Et ça, vous l'avez, c'est pas une activité que vous avez maintenue. Vous l'avez arrêtée. Pourquoi vous avez arrêté la Dark Kitchen?
On l'a arrêtée l'année dernière.
Pourquoi?
On a arrêté toute activité. On en avait 5. En fait, c'était une activité.
Dark Kitchen?
Oui, on en a ouvert jusqu'à 5.
C'est énorme, j'avais pas.
Oui,
donc ça tournait, ça fait quel chiffre d'affaires cette activité? Enfin, juste la donc Bao Wow Delivery.
Alors, on communique pas trop tous les chiffres. Enfin...
J'en ai 2-3, mais on va partir les chiffres après. Mais ouais, un ordre de grandeur. C'est autant, par les 5, ça tourne autant qu'un restaurant,
en fait,
5 restaurants.
Par jour, on pouvait faire entre 70 et 120 couverts par jour.
Ah ouais, donc c'est énorme.
Pourquoi
l'arrêter alors?
Parce qu'en fait, pour maintenir notre niveau de qualité, finalement, c'est la même marque.
Ouais.
Donc, on voulait absolument pas dégrader l'expérience que les gens pouvaient avoir. Ça nécessitait en fait un coût staff qui était énorme et qui, du coup, au final, ne nous permet, avec les commissions Deliveroo, ne nous permettait pas d'avoir un bon niveau de rentabilité.
Donc, finalement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, finalement, la livraison, dans ce cas-là, moins rentable que l'activité classique du restaurant.
Exactement.
Et en plus, on est moins dans les valeurs dont on parlait tout à l'heure, parce que là, forcément, livraison à la maison, on n'est pas trop dans l'expérience, on n'est pas trop dans le contact avec ta communauté. Autre projet qui se lance à ce moment-là, c'est Bao Market, l'épicerie qui, elle, existe encore.
Oui,
exactement. Tu peux nous raconter tout ça?
Alors, pendant le confinement, avec toujours la même idée de pouvoir offrir des produits Bao à la maison et transmettre la Bao Vibe, on a créé Bao Market. Donc, c'est un e-shop.
Bao Vibe, ok.
La Bao Vibe,
j'avais pas le terme encore.
Et du coup, sur le e-shop, les gens pouvaient avoir accès à nos sauces, nos épices, même nos affiches. À ce moment-là, on faisait la décoration d'intérieur. les fameuses affiches de gros Bao.
C'est pour les fans.
Exactement. Mais non, mais ça, c'est génial. Il y avait même Lisa Gachet, tu vois, de Make My Lemonade, qui nous a fait décoller à ce moment-là parce qu'elle adorait les affiches. Elle habitait à côté de Gourbao.
Ouais.
Et après, elle avait acheté une affiche qu'elle avait postée sur son Instagram.
Et là, bim, voilà, génial. C'est parti.
Et là, c'était parti.
Ça, c'est que du sec ou oui, parce que le frais, ça a été en livraison plus
voilà,
de l'arrêter. Donc là, c'est
sec,
vraiment des produits secs. Ouais.
C'est que des produits secs. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a sorti la Cup Noodles.
Ah oui,
donc,
c'est là, ok, d'accord.
Et en fait, moi, c'était mon délire de réussir à faire une cup noodles qui soit saine, avec des nouilles maison, un bouillon maison, des légumes séchés.
Rappelons ce que c'est.
Les cup noodles, c'est des nouilles instantanées. Les fameuses nouilles instantanées qu'on trouve dans tous les supermarchés asiatiques et qui sont mangées partout en Asie.
Après le premier confinement, vous pouvez enfin ouvrir Gourbao. À quoi ressemble ce restaurant-là? Vous retraviez avec Murmure. À quoi ressemble la salle? À quoi ressemble l'offre?
Alors, du coup, on retravaille avec Murmure. On s'est dit, on veut reprendre des codes chinois. Et en fait, nous, on prend souvent les codes chinois à travers la couleur. C'est-à-dire que on veut que les gens se rappellent la Chine, mais on veut pas que ce soit obvious. Donc, on prend toujours des codes kitsch et on les rend cool. Ça, c'est ce qu'on adore faire.
Le mot kitsch est assumé, mais on le rend cool. Okay.
Exactement, c'est ça. Et donc, la couleur rouge iconique de la culture chinoise, on l'a repris. Et on s'est dit, on va faire un sol, un full rouge, sol, mur, plafond sur les deux étages. Ça, c'était vraiment un gros coup parce que à cette époque-là, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de color block, mais à l'époque, on était quand même les premiers à avoir fait du color block, surtout sous une couleur aussi intense.
Avec un sol en résine, donc assez brillant et lumineux.
Exactement. Et ensuite, avec eux, moi, je voulais vraiment qu'ils s'immergent dans la culture chinoise et même hongkongaise, qui sentent aussi la vibe que je voulais transmettre à travers le lieu. Et en fait, on les a emmenés avec nous à Hong Kong.
Ah, carrément.
J'ai emmené les deux architectes à Hong Kong.
Parce que tu voulais qu'ils aient tes références.
Exactement, qu'ils aient les références, qu'ils les comprennent.
Ah, là, pareil, tu vas loin, là. C'est bien.
Ouais. Et en fait, c'est à Hong Kong qu'on avait déjà un premier projet, mais on l'a vraiment précisé là-bas. Et donc, en fait, c'est à Hong Kong qu'on s'est dit, en fait, c'est des lampes, les fameuses lampes rouges de Gourbao, c'est des lampes qu'on retrouve dans tous les marchés, en fait, à Hong Kong. Et j'aurais fait, OK, il faut absolument qu'on ait ça au plafond. Et avec eux, ils se sont dit, OK, on va mettre tout le plafond avec des 200 lumières.
Parce que non seulement elles sont iconiques, mais il y en a combien?
Il y en a 200.
200.
Voilà, exactement.
Vous avez vu grand.
Voilà, 200 lampes au plafond. Et pareil, les tables en formica qu'on a à Gourbao, c'est des tables en formica iconiques de Hong Kong. On a acheté les tables à Hong Kong.
D'accord.
Et ça c'est vraiment des histoires trop drôles parce que c'est dans des petits bouis de rue. J'aurais dit, je veux 60 tables, alors qu'eux vendaient les tables une par une.
Si on sait qui celle-là.
Comment se passe alors cette ouverture? Est-ce que les clients sont encore une fois au rendez-vous? Tu nous avais évoqué tout à l'heure que cette fois-ci, vous travaillez avec une agence presse.
En effet, là, on a fait appel à une agence presse que pour moi, c'était une autre envergure. Remplir 50 couverts, c'est OK, mais remplir 120 couverts tous les jours, c'est vraiment une autre ambition. Et du coup, on a fait appel à l'agence Walkie Talkie.
D'accord.
Absolument génial. Et on a fait du coup une très belle ouverture avec une soirée d'opening en invitant la presse. Et ça a décollé tout de suite. Pareil, on a eu la queue chez nous dès le début.
Ouais. Ça s'est rempli. C'est plus grand, c'est deux fois plus grand, mais ça se remplit aussi vite que Petit Bao, décidément.
Et comment t'expliques une nouvelle fois un tel succès, un tel engouement?
Je pense que Gros Bao, je pense que Petit Bao, ça a choqué plutôt par notre approche et par les messages qu'on passait. Gros Bao, je pense, ça a choqué par le lieu, en fait.
Choqué dans quel sens? Ça interpelle. Ouais, voilà.
Non, mais ça, oui, il a choqué.
Ouais, non, mais c'est bien. Mais c'est bien. Il faut marquer.
Il faut marquer l'esprit. Ouais. Et je me souviens même d'un quelqu'un qui disait sur Instagram, il y a un ovni qui a ouvert sur le canal Saint-Martin.
Ouais.
Et en fait, c'est dans cet extrême-là. C'est-à-dire que je dis le mot choqué, mais c'est plus que ça. C'est tellement
ça fait parler, ça attise la curiosité, les gens vont voir et bon, il se trouve que c'est bon, donc les gens y retournent et puis la presse en parle, les influenceurs en parlent et bouche à oreille aussi, un classique.
C'est aussi le fameux adage du branding où tu viens la première fois pour le visuel et tu reviens pour la qualité du produit dans l'assiette. En fait, c'était un peu la même chose avec ce Gros Bao.
C'est exactement ça.
Et c'est là où il faut être bon, il faut maîtriser en effet toutes les clés du bon restaurant. Parlons maintenant du groupe Bao Family, parce qu'on l'a dit, hein, ça va devenir un groupe. Donc la famille s'agrandit après Petit Bao, Gros Bao. Vous allez ouvrir Bleu Bao et Bao Express. Est-ce que tu peux nous parler de ces nouveaux restaurants?
Bleu Bao est venu... En fait, on travaillait sur Bleu Bao et Bao Express à peu près en même temps. On avait à peu près trouvé les locaux en même temps.
Ah, vous voulez les deux nouveaux... Enfin, les deux, les trois nouveaux... Elkan, vous voulez les ouvrir en même temps?
Voilà, exactement.
Vous
sauf
êtes
que...
hyper chaud.
Parce que voilà, je pense qu'on était encore porté par notre goût de l'aventure et du risque. Avec Bleu Bao, ce qu'on voulait tenter de faire, c'était vraiment de faire du fine dining.
Ouais.
Donc aller sur une offre et en fait une expérience qui soit un peu plus premium. On voulait pas aller dans du gastronomique du tout, ni dans du bistronomique. On voulait juste premiumiser légèrement en fait le restaurant, que ce soit vraiment un restaurant et plus une cantine.
D'accord.
Donc avec Bleu Bao, c'est vraiment l'approche, avec du coup une espèce de maison. En fait, on l'a vraiment organisé comme une maison bourgeoise chinoise. Ah. Donc il y a une salle de réception au rez-de-chaussée et en haut, on monte par les escaliers en bois, on arrive sur une bibliothèque et une chambre.
Là, on revient à ta première vision de ce lieu que t'imaginais gamine, un vrai lieu où on passe du temps, une expérience. Là, c'est un restaurant plus classique, on réserve. Il y a la réservation qui apparaît à ce moment-là.
Exactement, pour la première fois, on se met à la réservation. Et ça, c'était un gros choc et gros débat aussi en interne, parce qu'en fait, nous, on ne savait pas forcément gérer le modèle de réservation à la base.
Et maintenir la rentabilité dont on parlait tout à l'heure avec seulement deux services.
Exactement. Ouais. Et finalement, le modèle de rentabilité de Gros Bao, tu vois, ça nous a mis quand même, je pense, 8 mois. À bien le comprendre parce que finalement tu testes, mais en fait il y a toujours des ajustements à faire par rapport à la clientèle, par rapport à la carte, par rapport à qui on est, par rapport à la réservation. Mais en fait ça demande des tâtonnements, ça demande de faire des tests, ça demande de prendre des risques, ça demande de bousculer un peu nos habitudes pour justement faire un modèle qui soit très précis et très juste par rapport à la clientèle qu'on a, le quartier, les attentes et notre offre.
Pourquoi vous aviez instauré ce système de réservation à Bleu Bao? C'était quoi la logique?
En fait, on s'était dit que pour un restaurant de ce type-là, avec l'objectif aussi de ticket moyen qu'on s'était donné, dans les cantines, on est plutôt à 25 euros hors taxe. Là, on voulait au moins 30 euros hors taxe. On s'était dit que la réservation était le plus en fait adapté, parce que ça aussi amène une clientèle qui est prête en fait à mettre ce genre de montant en fait pour passer une soirée. Et mais du coup, c'est de la réservation, mais quand même sur deux services.
Ouais.
On est obligé voilà de faire deux services.
Il faut quand même aller chercher du volume, et là vous pouvez certainement vous permettre de le faire parce que la marque est devenue forte.
Complètement.
Donc elle est attractive, et vous savez que même en mettant de la réservation, en gros, il y aura pas de vide et vous pouvez avoir de la rotation. Ouais. On n'a pas parlé du financement, on aura toute une partie sur le groupe un peu plus tard, mais même à ce stade, comment tu finances ces nouveaux établissements? C'est du bancaire, parce que là les banques vous suivent dans la mesure où il y a des très bons chiffres sur les premiers. Vous faites rentrer en fonds propres des nouveaux investisseurs, ou c'est vraiment que les banques?
Alors, on fait rentrer, en fait, dès l'ouverture de Gros Bao, on a fait rentrer des investisseurs, des business angels.
Ouais.
Et on a fait du coup trois levées de fonds consécutives.
Quel montant à peu près ?
En tout, on a levé 4 millions.
Bon, sur le, tu parles sur de le chiffres, total. C'est bien. À 4 millions.
Sur le total, sur en 3 fois.
D'accord. Ouais, parce qu'il faut quand même gonfler les fonds propres, pas uniquement les banques. Mmh. Et là, vous embarquez assez facilement des investisseurs parce qu'il y a un projet. Comment tu dragues ces investisseurs là, à ce moment-là, tu leur dis quelle est la vision à 5 ans ? Parce qu'il faut leur parler sur du 5 ans. Tu leur dis quoi ? Tu leur dis, je vais ouvrir, enfin, on va ouvrir combien de restaurants ?
Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, nous, ce qu'on leur dit depuis le début, c'est qu'on veut devenir, on veut devenir la référence de la cuisine chinoise dans le monde.
Dans le monde.
Voilà.
Ouais. Donc, pour ça, on en parlera après.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que, notre rêve, c'est qu'il y ait des bao en fait dans toutes les grandes villes du monde.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment le projet qu'on vend. C'est, enfin, faire du casual, enfin, de la comfort food chinoise partout.
Et ça embarque. Ils ont quel profil, tes investisseurs ?
Alors,
c'est business angel.
Très, très business. C'est souvent des personnes, en fait, qui ont déjà monté des boîtes. Donc, c'est des entrepreneurs, beaucoup
food.
D'entrepreneurs. Quelques-uns dans la food et d'autres dans le milieu retail,
ouais.
Cosmétique, tech. Et aussi quelques investisseurs qui, de family office qui investissent essentiellement dans la food.
Ok. Et donc après Bleu Bao, ça va très vite. Hein. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez lancé les deux projets en même temps. Bao Express, tu peux nous dire deux mots, enfin plus que deux mots d'ailleurs sur cet autre ovni.
Oui.
Projet ambitieux, je crois que c'est le plus gros d'ailleurs.
C'est le plus gros, celui-là il est sur 500 mètres carrés.
Ouais. Ils sont chauds. Hein.
Ouais, en fait, mais tu vois, on a appris, à chaque fois on va plus... On a tenté beaucoup de trucs au final. Et maintenant, on sait, on se connaît beaucoup mieux. Mmh. Et maintenant, avec toutes ces expérimentations, on sait quel est notre modèle cible qu'on va développer. Mais Bao Express, l'idée, c'était vraiment de faire une cantine, en fait, hongkongaise qui sert des dim sum.
Ouais.
C'est 130 couverts à Bastille, rue Breguet,
ouais.
dans un univers qui est très rétro, 80, qui rappelle vraiment l'architecture de Hong Kong. Il est fou.
Bah, décris.
Parce que vous avez même trois lieux en un, en fait.
Alors, en fait, on a un bar à cocktail en bas.
En mode
qui s'appelle Dien,
ouais,
qui s'appelle
Dien,
ouais, en mode speakeasy, qui s'appelle Dien Derpool. Après, en fait, on l'a tenu pendant un an, et là, on l'a transformé. Donc maintenant, c'est un bar qui est ouvert du jeudi au samedi, et qui sert, en fait, la carte boisson du restaurant.
D'accord.
En fait, ça a été aussi une expérience d'essayer d'ouvrir un bar à cocktail. On a eu une très bonne presse, très appréciée du monde du cocktail. Après, ça a été un modèle, pareil là, de rentabilité, sur lequel on était moins confortable. Et du coup, on a décidé, après un an d'expérimentation, d'arrêter et de se focaliser sur le restaurant. Pareil, on avait ouvert à l'époque, en même temps que le restaurant, une boulangerie. Donc, ça s'appelait Bao Bakery. Et du coup, c'était assez... en fait, à ce moment-là, c'était génial parce qu'on ouvrait trois lieux en un et ça a fait beaucoup parler de nous. Après, je pense que là, on a été.
Il faut de la nouveauté. Il faut de la nouveauté.
Il faut toujours de la nouveauté.
On sent que vous avez besoin de défis, de neuf. Ouais.
Voilà,
mais bon, vous rationalisez finalement à la fin.
Exactement. Mais c'est sûr qu'on est emporté, tu vois, par notre énergie. On se dit, on peut tout faire. Et au final, la réalité aussi nous ramène.
Vous arbitrez rapidement. Vous obstinez pas. Là, le bar à cocktail, c'est sympa, mais c'est moins rentable. Bim, on pivote.
Ouais.
La boulangerie, c'est sympa, c'est moins rentable. Très business, hein. Créa, mais quand même très business.
Ouais, exactement.
Les deux,
et tu vois, la boulangerie aujourd'hui, c'est devenu vraiment notre espace de takeaway.
Elle existe. Ah, je crois qu'elle. Donc, elle existe plus.
Donc, voilà, okay, pareil.
J'étais pas à jour, bah, tu vois, on se bête.
Oui, mais c'est il y a 4 mois, donc c'est comme relativement récent. Ouais. Maintenant, c'est devenu notre espace de takeaway, et aujourd'hui, on fait un pop-up à l'intérieur. Dans Bao Market, en fait, on sort nos t-shirts et on vient de faire une collab avec Puma. Et en fait, c'est devenu un pop-up qui est pris par Puma à l'occasion du Nouvel An chinois.
Ouais. Et ça, c'est donc maintenant, ça se concentre sur Bao Express. Et donc, Bao Express, tu l'as dit rapidement, c'est une espèce de diner. En quoi il est différent encore des autres adresses ? C'est le style, même la carte, tu l'as dit.
Oui,
ouais,
exactement. Okay, en termes de style, en fait, il va vraiment se positionner entre Gros Bao et Bleu Bao.
Ouais.
C'est-à-dire que ça va être un diner chinois avec un service très rapide, mais toujours sur le modèle de réservation. Mais en expérience, t'es quand même, ça reste une expérience très qualitative, avec un prix qui reste très abordable.
Quand tu prends un peu de recul, qu'est-ce que tu ressens quand tu réalises que t'as ouvert 4 restaurants en 4 ans, avec en plus une pandémie au milieu? C'est incroyable et c'est assez inédit dans le monde de la restauration.
Alors, je t'avoue que je commence à réaliser et j'essaie de me forcer à réaliser parce que sinon on a toujours l'impression qu'on veut faire plus et qu'on fait pas assez. Enfin, donc du coup, non, j'essaie de. Ça fait quelques mois là que je me force à réaliser. En vrai, c'est dingue hein, comme aventure.
On est d'accord.
Hein. Ouais.
Lucarne, on est là pour te dire, pour te rappeler.
Non, c'est quand même dingue comme aventure. Moi, je suis hyper fière à la fois de la marque, de nos lieux. Enfin, moi, j'adore nos restaurants. Enfin, je les adore. J'adore notre cuisine. J'adore nos équipes. Enfin, je suis hyper fière. Enfin, et là, ça y est. Tu vois, j'ose enfin me le dire.
Ouais. T'imaginais ça au début, dans tes rêves les plus fous?
Mais non, mais c'est ça qui est... En fait, c'est ça qui est dingue, c'est vertigineux. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment vertigineux. Enfin, voilà, vous me voyez pleurer aussi, mais parce que je pense que c'est aussi la réalisation de ce que j'avais imaginé dans ma tête.
C'est très personnel
mais quand,
aussi.
Voilà. Ouais, mais quand c'est vrai et qu'on a des clients tous les jours et qui viennent tout le temps et qui t'envoient des messages incroyables, c'est quand même incroyable.
Tu vois le succès de ce que tu avais imaginé et tu vois que ça plaît à d'autres et que c'est pas uniquement un délire solitaire d'une jeune entrepreneuse.
Exactement.
Comment est-ce que vous orchestrez aujourd'hui ces 4 restaurants? Comment est-ce que vous vous organisez? Il y a une cuisine centrale. Qu'est-ce qui est produit en centrale? Qu'est-ce qui est produit sur place? Comment vous organisez tout ça?
Alors, très tôt, là, ça a été l'intuition de Billy. Il s'est dit que rapidement, il fallait qu'on ait une cuisine centrale parce que déjà, tous nos restaurants existants, petit Bao, gros Bao, souffraient d'un problème de stockage. Mmh. C'est-à-dire qu'au vu du volume qu'on faisait, en fait, on n'avait même pas juste les mètres carrés nécessaires de stockage pour produire notre cuisine. Et en plus, pour assurer la même qualité tous les jours sur différents lieux, la cuisine centrale, c'est comme un énorme atout. Et du coup, en fait, l'une des levées de fonds qu'on avait faites était aussi pour financer l'ouverture des restaurants, mais aussi la cuisine centrale. Donc, on appelle le Bao Lab, parce qu'il y a des noms Bao dans tout.
Ouais. Donc, c'est ça, la Bao Vibe.
Voilà, exactement.
Bao Lab.
Donc, le Bao...
Bao School, on en parlera après aussi.
Exactement. Ouais.
Elle est où, cette cuisine centrale? Elle fait quelle taille? Elle est organisée comment?
Alors, notre Bao Lab est à Vitry-sur-Seine. Ça fait 500 mètres carrés. Aujourd'hui, ça livre nos 4 restaurants, mais il est sizé pour une dizaine de restos.
Donc ça affiche l'ambition.
Voilà.
Parce que l'avantage aussi, c'est que même si les 4 restaurants ont une offre différente, vous avez quand même quelques produits centraux, en tout cas quelques préparations que vous pouvez dispatcher dans les 4 restaurants.
Oui, complètement. En fait, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir quand même un corps de carte qui soit similaire. Mmh. C'est-à-dire que les clients, même pour les fidéliser, finalement, ils aiment bien toujours avoir, ce qu'ils aiment, retrouver en fait les produits, les classiques.
C'est quoi le cœur de carte? C'est les Bao, le Xialong Bao.
Voilà.
On le retrouve dans les 4 établissements.
Alors, c'est les Bao qu'on retrouve dans les 4. Le Xialong Bao, maintenant, c'est à Petit Bao et Bleu Bao.
D'accord.
Et ensuite, toutes les nouilles sautées, le beef au fun, les aubergines, le poulet, ça c'est vraiment partout. Et du coup, en fait, le labo nous permet de produire en fait tous les éléments en fait qui sont communs à tous les restaurants. Et en fait, le Bao Lab, on l'a ouvert en même temps que Bleu Bao, donc il y a 2 ans.
D'accord.
Donc en fait, on a ouvert le lab plus Bleu Bao en même temps. Ça, c'était une énorme logistique. Et du coup, on a aussi passé du temps, en fait, à peaufiner la logistique et l'organisation entre le lab et les restos.
Ouais, toutes les livraisons entre les
lieux. Ça marche comment,
Alors, du coup, on a un transporteur qui livre nos restos tous les jours.
En interne, ou vous externalisez ça?
Alors, le transport, c'est une société externe.
D'accord.
Ouais.
Et les Bao, ça veut dire que les Bao sont fabriqués dans la... cuisiner dans la cuisine centrale qu'est-ce qui se passe ensuite dans les restaurants? Comment vous avez dû adapter le process et les process? Parce qu'il y a 2 temps maintenant. Ouais.
Bien sûr. En fait, tous les Xialong Bao sont faits au restaurant parce que ça, en fait, c'est un produit qui ne peut pas se faire en avance.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment très frais. Ouais, voilà. Exactement. Donc, tous les Xialong Bao sont faits au restaurant. Ensuite, c'est les brioches qu'on peut préparer au lab et ensuite qu'on réchauffe à la vapeur.
Voilà.
Mais tout est fait.
Il y a une partie de la recette qui est fabriquée en centrale et c'est parachevé, enfin c'est terminé.
Exactement. C'est ça. Et après au laboratoire, ça va être les sauces.
Ouais.
Toutes les sauces en fait sont préparées là-bas.
Au niveau du groupe, vous êtes combien de salariés aujourd'hui dans les restaurants, dans la cuisine centrale, dans les bureaux? Comment vous répartissez
Alors, on a 150 salariés en tout.
150 aujourd'hui.
Ouais, dans le groupe.
Donc, c'est un vrai groupe de restauration. C'est fou, en 4 ans. À peine 30 ans. C'est dingue.
Alors, on a un bureau, nous, qui a à peu près une dizaine de salariés. Donc, sur des fonctions réparties classiques. Hein, directeur financier, directeur RH, directeur des opérations, directeur de lab, une lead de notre creative studio, donc qui est tout le département marque et communication du groupe.
Le Bao Studio.
Bao Creative Studio. Je peux tous les faire.
Ouais, vas-y, fais-toi plaisir.
Ouais, voilà, le Bao Creative Studio. Et ensuite, eux, enfin, toutes nos têtes, ensuite, ont leurs équipes.
Et après, t'as des directeurs dans chaque restaurant.
J'ai des directeurs dans chaque restaurant.
T'as un produit model, c'est ça?
Exactement.
Qui reporte à qui? À quoi ressemble l'organigramme de...
Alors, tous nos
Bao Group, Bao Family.
Alors, nos directeurs reportent au directeur des opérations.
C'est Billy. Non,
Billy, il est directeur général.
D'accord. Comment vous répartissez les rôles aujourd'hui?
Alors, Billy est directeur général.
D'accord.
Donc, il gère vraiment l'entreprise et le groupe, avec en gros focus les opérations, la finance, la RH. Ouais. Moi, j'ai vraiment le rôle de présidente et de directrice artistique et culinaire.
D'accord.
Et où je gère vraiment toute la partie food, les cartes, l'expérience client, tout le design, l'architecture et du coup la marque, la com, le marketing. Ouais.
Est-ce que vous avez associé certains de vos salariés, notamment des directeurs du restaurant, à la boîte ?
Complètement. Du coup, on a mis en place un système de BSPCE qui permet en fait de donner quelque part en fait aux salariés clés de la boîte. Et en fait, ce qui est assez innovant, je pense, c'est qu'on l'a même donné à des niveaux managers.
D'accord.
De restaurant. Donc, même pas, enfin, sous les directeurs.
Ce qui est une des façons, justement, d'impliquer les équipes dans la durée.
À l'époque, on avait parlé d'un sujet, donc moi, à titre personnel, j'étais venue te poser des questions sur notamment le management. Comment est-ce que toi, tu réussis à manager autant de monde? Comment tu as appris à manager? Quel type de manager tu es? Notamment, en plus, tu es assez jeune encore. Tu dois manager peut-être des gens aussi qui sont plus âgés que toi. Enfin, comment tu réussis à faire coïncider tout ça?
Je pense que le style de management dépend vraiment aussi de notre personnalité. On a tous des styles différents. Et en tout cas, là où je suis plus à l'aise, c'est de toujours réussir à être moi dans mon management. Du coup, avec Billy, on a des styles qui sont légèrement différents. Je pense que j'ai un management, moi, qui est beaucoup plus... je suis inspirante. En gros, je vais embarquer les équipes avec moi autour du projet, de la mission globale et l'ambition. En fait, ils sont aussi fans que moi du produit et de la marque. C'est ça qui est dingue, c'est que nos directeurs, nos managers, ils parlent même mieux que moi de Bao.
Ah. Enfin, c'est eux qu'on aurait dû interviewer, alors.
Non, mais et du coup, je pense que moi, c'est-à-dire que c'est ma force. Je suis beaucoup moins douée pour du management opérationnel de projet, à suivre les évolutions des gens en one-to-one.
Ouais.
Ça, c'est vraiment Billy qui est beaucoup plus doué à ça. Moi, je pense que j'ai vraiment un rôle d'incarner la vision et du coup de la porter auprès des équipes.
Ouais, et tu fédères les gens.
Je fédère les gens autour d'une vision. Et ça, je pense
c'est ton style. C'est ton style de management.
C'est mon style et je pense que ça a été notre force depuis le début. Ce qui fait aussi qu'on a des gens qui sont là depuis presque 5 ans et qu'on a un taux de turnover en fait qui est beaucoup plus bas que le marché. On a zéro prud'homme depuis 5 ans.
C'est bon signe.
Enfin, on embarque les gens autour du projet. Et après, il y a une vraie écoute, une vraie bienveillance et une approche très humaine aux choses qui parfois, en fait, est pas évidente parce que des fois, il faut être très, très dur. Et du coup, avec Billy, on est moins comme ça. Mmh. On a le reste de l'équipe, c'est leur rôle d'être les bad cops.
Ouais.
Et avec Billy, on est plutôt les good cops.
C'est original.
Ouais.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez vraiment accompagner les équipes dans une évolution de carrière avec vos différents lieux et donc de les faire passer à différents postes sur différents types de structures. Donc, c'est aussi ce qui permet, j'imagine, d'avoir un turnover assez faible.
Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une population qui est hyper énergique, qui a besoin d'adrénaline, qui a besoin d'apprendre. Et en fait, on peut les maintenir sur la durée, mais que parce qu'on leur donne de nouveaux challenges. C'est-à-dire que tu vas être dans un restaurant plus grand. Même si c'est, enfin, juste changer de taille de restaurant, c'est une évolution. Être sur un autre type de cuisine, Bleu Bao, c'est pas la même chose que Gros Bao. Tu vas aller à Marseille potentiellement. De chef de rang, tu vas passer à superviseur, puis manager, puis directeur. Enfin, du coup, il y a pas mal de possibilités d'évolution géographique, mais aussi évolutive au niveau du rôle.
Et en plus, la structure croît très vite, donc en effet, ça crée plein d'opportunités. Quel est le chiffre d'affaires global du groupe? La grand silence.
Ça, on ne peut pas dire.
Parce que j'ai lu dans un vieil article 3 millions, mais à mon avis, on est bien au-dessus.
On est bien au-delà, je pense.
On est bien au-dessus, on est bien, bien au-dessus.
On est bien au-dessus.
Bien au-dessus.
Bien, 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 bien.
Non.
Pas loin des 10. Grand silence.
Après, Alors là, les chiffres que je peux vous communiquer, c'est que on fait un peu plus de 1200 clients par jour.
Chez nous.
Dans tous les restos. Et on fait
avec un panier moyen.
Et comment ils sont répartis en fait entre les différents lieux? Est-ce que Gros Bao prend une petite moitié et le reste
Non, ils sont assez. Alors Petit Bao, vu de sa taille en fait, forcément.
Voilà,
exactement. C'est lié à son volume. Après, ce qui est assez dingue.
Il a fait 1,8 million la première année. Il a continué la croissance, donc on est au moins autour des 2 millions sur le plus petit. Donc ça donne quand même une idée. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on est largement autour de plus des 10 que des 3 que j'avais lu. Donc ça nécessite un petit update. On n'aura pas le chiffre final, je comprends.
Et est-ce que vous êtes rentable surtout aujourd'hui?
Alors, tous nos restaurants sont rentables. Après, forcément, avec la structure qu'on a mis du siège plus du lab, ça fait qu'en fait, on va être de plus en plus rentable, mais avec l'ouverture de nouveaux restaurants.
Ouais. Cette rentabilité, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est le volume. Enfin, c'est notamment le volume, la rotation des tables. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent une rentabilité par restaurant qui est venue assez vite? Il y a l'efficacité de l'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça?
Il y a l'efficacité de l'organisation, une bonne maîtrise forcément des coûts matières, une bonne maîtrise du staff. Et ça a été notre plus grand sujet.
Ouais.
Faire des plannings optimisés au niveau du staff, qui est vraiment qui représente une part énorme en fait. Des coûts, ça fait depuis un an que c'est beaucoup mieux maîtrisé. On a mis quand même vraiment 3 ans à être au maximum de notre modèle.
Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui? Est-ce que la concurrence a évolué depuis que vous êtes lancé?
Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de concurrents aujourd'hui, notamment le groupe Panda. Il y a la taverne de Zao également, il y a le groupe Tran Tran Zai, 3 fois plus de piment. En tout cas, sur la catégorie cuisine chinoise, il y a quand même beaucoup d'évolutions. Et en vrai, ils ont tous plusieurs restaurants. Mmh. Donc ça, c'est génial. Et ça montre aussi un attrait du
exactement. Et vous êtes
les
premiers, vous étiez les premiers dans ce segment de la Chinese Food Premium. Mmh.
Après, c'est vrai qu'on est, je dis pas forcément premium parce qu'on est quand même toujours accessible.
Oui, ouais.
Mais
de qualité,
exactement. Exactement, mais du coup, ça a entraîné d'autres à se lancer aussi dans l'aventure, et je vois que tout le monde est plutôt successful.
T'as un message à leur passer à tes concurrents qui t'écoutent forcément?
Je souhaite vraiment du courage et aussi bravo dans ce qu'ils font.
Attention, la Bao Family n'a pas dit son dernier mot, ça va aller vite. On va en parler justement. On arrive à la fin de ce troisième chapitre. Donc, dans le quatrième et dernier chapitre, on va parler de l'avenir. Donc, on en profitera aussi pour t'interroger sur ta vision du business de la bouffe d'aujourd'hui et demain. Allez, à très vite. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.